brothers and sisters, we welcome
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Cette réunion est retransmise depuis l'église de Lincoln Square à New York. Je suis David L. Buckner, président du Pieu de New York. Nous souhaitons la bienvenue à L. Whitney Clayton, de la présidence des 70, et nous sommes reconnaissants que Cathy Kip Clayton l'accompagne ce soir. Nous vous présenterons un peu plus tard frères et sœurs Clayton, qui seront les orateurs de ce soir. Nous sommes reconnaissants de la présence sur l'estrade de nos 70 interrégions, de notre coordinateur du DE et des séminaires et instituts de religion, et de leurs femmes. Nous commencerons cette soirée en chantant le cantique numéro 40, Saint en avant, armé de foi en Christ. Nous apprécions l'aide de Sumerisa Stevens, qui dirigera la musique, et de Alyssa Chard, qui nous accompagnera. Après le cantique, Darold Castillo, de la paroisse de Gia de Harlem, fera la prière d'ouverture.
Dear Father in Heaven,
cher Père Céleste, nous sommes réunis pour t'adorer, pour nous souvenir de ton Fils Jésus-Christ, pour te remercier pour l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, pour la prêtrise et les dirigeants de ton Église, et pour te demander que le Saint-Esprit soit avec nous, que par son pouvoir, nous puissions écouter des paroles de sagesse qui nous édifieront. Aide-nous à être humbles pour fortifier notre famille et pour fortifier les personnes qui écouteront les paroles de cette veillée dans le monde entier. Nous t'aimons beaucoup, Père Céleste. Nous sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu nous as données et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous sommes accompagnés par le chœur des jeunes adultes de New York, qui chantera « May my life reflect thy will ». Il est dirigé par Jamie Wood et accompagné par Ronnie Bishop. À la suite de l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'entendre Sœur Clayton, suivi de Frère Clayton. À la fin du discours de Frère Clayton, le chœur chantera « Je crois en Christ ». Michael Urbina, de la paroisse de Gia de Lincoln Square, fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter les orateurs de ce soir. L. Whitney Clayton a été soutenu comme membre du premier collège des 70 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en 2001. Il est membre de la présidence des 70 depuis 2008 et il avait la responsabilité de superviser l'interrégion de Salt Lake City ainsi que celle du nord et du sud de l'Utah. Il assiste David A. Bednar du Collège des Douze Apôtres dans la supervision des interrégions du sud-est et de l'ouest de l'Afrique. Frère Clayton a été membre de la présidence de l'interrégion de l'Amérique du Sud de 2002 à 2006, tandis qu'il vivait à Buenos Aires, en Argentine. Il a été missionnaire à plein temps au Pérou, en 1970 et 1971. De 1978 à 2001, il a été avocat à Newport Beach, en Californie. Il est né à Salt Lake City en 1950. Il affirme que son plus grand accomplissement a été d'épouser Cathy Ann Kipp en 1973 dans le temple de Salt Lake City. Elle est née à Salt Lake City. Elle est actuellement instructrice de la classe « Doctrine de l'Évangile ». Elle a été présidente des jeunes filles de pieux et de paroisse et instructrice du séminaire matinal en Californie et en Argentine. Ils ont 7 enfants et 19 petits-enfants. Le chœur va maintenant chanter « May my life reflect thy will ».
Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, main dans la main et aux côtés de mon meilleur ami éternel. Vivre avec l'amour de ma vie est une grande aventure. C'est aussi pour moi un honneur d'être ici avec vous. Vous êtes impressionnant à regarder. Vous que je peux effectivement voir, ou tous les autres que je vois avec les yeux de mon esprit. Vous êtes merveilleux. Si seulement vous pouviez vous voir comme je vous vois, manifestement rayonnant de potentiel et de promesses. Parfois, je crains que nous ne soyons les moins capables de reconnaître notre valeur personnelle. Et même quand nous le pouvons, il est difficile d'en être à la hauteur. Tristement, la vision déformée que nous avons de nous-mêmes est bien souvent plus modeste qu'exagérée. Dans Moïse, les Écritures nous décrivent comme étant son fils ou sa fille à l'image de Dieu. Et à nouveau dans Mosia, à cause de l'alliance que vous avez faite, qui est celle du baptême, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles. Puis à nouveau, dans Romains, nous lisons, nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pourquoi nous est-il si difficile de nous souvenir de notre identité royale et de vivre constamment animés par elle et à sa hauteur? La métaphore suivante me semble utile. Il y a quelques années, mon mari, notre fils cadet et moi vivions en Argentine en mission pour l'Église. Pendant nos temps libres, notre fils et moi avions particulièrement à cœur de visiter les sites locaux intéressants. Certains nous plaisaient beaucoup. C'était le cas d'un extraordinaire zoo sauvage, ne ressemblant à aucun autre que nous avons vu auparavant. Au lieu de déambuler devant des cages d'animaux endormis et de les admirer de loin, le zoo de Lujan invitait les visiteurs à entrer dans les enclos et à caresser les animaux, même les plus sauvages. Nous n'avons pas pu résister à cette invitation. À la suite du dresseur, nous sommes entrés dans l'enceinte préparée pour les très gros lions inquiétants. Et nous les avons caressés pendant qu'ils semblaient nous ignorer totalement. Après avoir quitté l'enclos en toute sécurité, j'ai demandé au dresseur comment ils avaient réussi à convaincre ces gros animaux de ne pas nous manger. Leur réponse m'a fascinée. Ils m'ont fait remarquer plusieurs petits chiens qui, eux aussi, vivaient dans ces cages. Ils m'ont dit qu'ils avaient, entre autres, élevé les lions avec ces chiens constamment à leur côté. Quand les lions étaient très petits, ces roquets étaient plus gros qu'eux. Les chiens croyaient qu'ils en étaient responsables et ils chassaient les lions impitoyablement, mordant méchamment leurs talons. Les lionceaux prirent l'habitude de se réfugier dans le coin et de se comporter comme s'ils avaient été terriblement peur de ces méchants petits chiens. Quand les lions ont grandi, ils ont continué à se réfugier dans le coin et à craindre les petits chiens. D'un coup de patte, n'importe lequel de ces grands lions aurait facilement pu envoyer voler ses chiens hors de l'enclos. Mais ils ne se voyaient pas comme ils étaient vraiment. Ils étaient douloureusement inconscients de leur identité royale. Ils étaient coincés et limités par la conception erronée de leur potentiel. Ils se pensaient petits et faibles et permettaient ainsi à des chiens agaçants et persistants de les contrôler et de les intimider. Je crains que des petits chiens agaçants n'écrasent notre confiance et ne nous fassent nous réfugier figurativement dans des coins. Je vais vous en nommer quelques-uns apparemment presque universels. Premièrement, le manque de confiance. Une étude révélatrice a remarqué que trop d'entre nous caractérisent notre performance davantage par nos échecs que par nos succès. Très souvent, quand un jeune passe un examen comportant 100 questions, et qu'il obtient 80 bonnes réponses, il admettra tristement qu'il a mal répondu à 20 questions, plutôt que de remarquer fièrement qu'il en a réussi 80. Le manque de confiance en nous et en notre potentiel peut nous empêcher de voir notre valeur et notre capacité véritable. Deuxièmement, la connaissance imparfaite et incomplète. Même Néphi, un prophète, a été obligé d'exercer sa foi parce qu'il ne savait pas tout. Vous souvenez-vous quand les cieux se sont ouverts à lui et qu'un ange s'est tenu devant lui? Néphi a eu la vision de Nazareth et de la mère du Sauveur. Mais quand il lui a été demandé s'il comprenait la condescendance de Dieu, il a admis ne pas connaître la signification de toute chose. Mais avant de reconnaître ce qu'il ne savait pas parfaitement, il a affirmé ce qu'il savait avec certitude, que Dieu aime ses enfants. C'est la chose la plus essentielle à savoir. C'est suffisant pour nous empêcher de permettre à des petits chiens assommants ayant une connaissance incomplète de compromettre notre certitude de la véracité de l'Église et de nos relations bénies avec notre Père Céleste ainsi que son amour infaillible et stimulant envers nous. Troisièmement, la négligence ou l'inattention. Négliger de faire de bons choix ou en faire de mauvais obscurcit notre vision de la réalité. Je pense qu'il y a une raison symbolique pour laquelle les enfants d'Israël devaient recueillir quotidiennement de la manne. Notre Père Céleste aurait pu leur en donner suffisamment pour la semaine, mais l'obligation quotidienne de ramasser de la nourriture pour leur âme les obligeait à se souvenir de lui. La nourriture pour l'âme doit être consommée régulièrement et souvent. Lire les Écritures, prier, aller à l'église, servir autrui. Toutes ces choses sont notre manne et les succulents aliments des enfants de Dieu. Vous avez sans aucun doute des chiens assommants qui sont uniquement les vôtres. Nous en avons tous. Ne les laissez pas vous définir. Comportez-vous en enfant de Dieu que vous êtes. C'est votre droit de naissance. Si votre conduite n'est pas à la hauteur de votre identité royale, faites les changements qui s'imposent. Vous pouvez le faire avec l'aide divine. Votre identité divine est permanente. Le fait que ces lions ne se conduisaient pas de façon courageuse et puissante n'a pas fait qu'ils ont cessé d'être des lions. Parfois, nous disons que nous sommes les créations de Dieu, et c'est assurément une pensée noble. J'aime encore mieux me souvenir que nous sommes ses enfants. Son ADN spirituel coule dans nos veines. Rappelez-vous, il a dit encore et encore que nous sommes ses fils et ses filles et ses héritiers. Écrasez toutes les croyances, habitudes ou messages trompeurs qui vous amènent à vous réfugier dans les coins de votre vie. Ne les laissez pas vous mordre les chevilles et vous rendre craintifs ou vous blesser. Élevez-vous au niveau de votre stature éternelle. Vous êtes issus de la famille royale. Que le Seigneur nous accorde à tous le sentiment de notre identité divine. Tout ce que le Père a est la promesse faite aux personnes qui s'approprient la grande vision divine de leur potentiel et vivent à la hauteur de leur droit de naissance d'héritier de notre Père Céleste. Que le Seigneur vous bénisse pour que vous adoptiez et vous réjouissiez de ce que vous êtes réellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dear brothers and sisters, I feel
frères et sœurs, c'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Je me joins à Cathy pour vous exprimer notre amour. Nous avons prié pour que nos paroles ce soir fortifient votre foi en Dieu et en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je prie également que les cieux puissent nous inspirer, vous et moi, pendant les minutes qui viennent. Vous venez d'entendre Cathy, qui est l'amour et la lumière de ma vie. Je suis reconnaissant pour la joie et le sens qu'elle a apporté à ma vie, sans oublier les 7 enfants que nous avons eus, qui à leur tour nous ont donné 19 petits-enfants et bientôt 21. Cathy est le cœur de notre foyer et de notre famille. Quand je l'ai épousée, je ne savais pas que la vie pouvait être aussi douce. Sa bonté et ses vertus signifient tout pour moi. Je suis si heureux que vous ayez pu l'écouter. Nous souhaitons la bienvenue à ceux d'entre vous qui sont à New York ce soir et à tous ceux qui se trouvent en d'autres lieux, sous d'autres fuseaux horaires et dans d'autres pays. Nous souhaitons une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, où qu'ils soient dans le monde. C'est quelque chose de miraculeux de pouvoir se réunir ainsi. Vous venez de nombreux pays et de cultures différentes. La diversité de vos situations est extraordinaire. Certains d'entre vous vivent avec toutes les bénédictions de l'instruction et de l'abondance matérielle. D'autres ont des difficultés à se nourrir tous les jours. Certains d'entre vous sont les descendants des pionniers qui ont traversé les plaines des États-Unis. D'autres sont des pionniers dans leur propre pays. Certains ont fait une mission. D'autres viennent d'être baptisés par les missionnaires ou n'ont peut-être pas encore été baptisés. Certains viennent de familles où tout le monde est membre de l'Église et pratiquant. D'autres sont les seuls membres de l'Église de leur famille et peut-être même de leur collectivité. Certains viennent de foyers forts avec des parents qui ont été d'excellents exemples. D'autres viennent de foyers où ce n'était pas le cas. Je suis convaincu que ce que nous partageons en tant qu'enfants de Dieu est bien plus important que les différentes situations que la vie nous impose. Le Sauveur a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il n'a pas limité cette bénédiction à un lieu ou à une époque. Elle est à la portée de tous, quelle que soit notre situation. Son but est de nous aider à parvenir à une vie abondante, où que nous vivions et à toutes les époques. J'ai ressenti que je devais expliquer comment parvenir à une vie abondante, et j'ai intitulé mon discours comme un jardin arrosé. Tout d'abord, je vais parler d'un événement qui s'est produit le jour de la crucifixion du Sauveur et qui, selon moi, nous enseigne une grande leçon. Puis j'utiliserai deux exemples pour illustrer comment parvenir à une vie abondante. L'une des scènes les plus troublantes des Écritures se trouve dans l'Évangile de Jean. Elle s'est produite après que le Sauveur ait souffert une agonie incompréhensible pour nos péchés et nos faiblesses mortelles dans le jardin de Gethsémané. On nous enseigne que ses souffrances ont été extrêmes, qu'elles ont été dures à supporter. Nous ne savons pas combien elles ont été dures à supporter et ne pouvons pas comprendre à quel point elles ont été éprouvantes. Cette scène faisait également suite à sa trahison, son arrestation, et à la nuit d'affront et de sévices qu'il avait souffert aux mains des dirigeants des Juifs. C'était après avoir été brutalement flagellé par les soldats romains, agissant sous la direction de Ponce Pilate. C'était après qu'une couronne d'épines ait été posée sur sa tête. Pilate reconnut que Jésus n'avait rien fait qui méritait de le crucifier. Il ordonna que Jésus soit flagellé, une forme de punition corporelle extrême, mais qui n'est normalement pas fatale. Peut-être que Pilate espérait qu'en torturant et humiliant ainsi le Sauveur, il persuaderait les dirigeants des Juifs que Jésus avait déjà reçu une leçon terrible et douloureuse, qu'il avait servi d'exemple, et que la crucifixion n'était pas nécessaire. Peut-être espérait-il éveiller en eux une once de pitié. Ainsi, après la flagellation, Pilate ordonna que Jésus soit amené à la vue de tous. Je pense qu'il espérait que les souffrances physiques évidentes de Jésus suffiraient à les satisfaire. Ce ne fut pas le cas. Jean a écrit, « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie ! Crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Aussi important que soit le reste de l'histoire, et il l'est, je m'attarde sur les paroles de Pilate. « Voici l'homme. Voici l'homme. » Le plaidoyer de Pilate était profondément ironique. Bien que Jésus à ce moment-là ait été défiguré, il n'y avait jamais eu jusqu'alors, et il n'y a pas eu depuis, d'homme ni de femme qui méritait plus d'être regardé. Sa vie était parfaite. Il n'avait pas d'égal. Personne n'avait jamais vécu comme lui. Personne ne le fera jamais. Il possédait chaque vertu dans sa forme parfaite. Il avait tout pouvoir de contrôle sur lui-même. Ses émotions et ses sentiments étaient parfaits, tout comme ses pensées. Sa compréhension était infinie. Lui seul était réellement digne d'être regardé, sous chaque angle, d'être examiné, mesuré et adoré. Nous n'aurions jamais pu être déçus par ce qu'il avait dans son esprit et dans son cœur, et par ses sentiments. Bien que son apparence ne le reflétait pas à cet instant-là, Jésus était l'incarnation de la vie abondante. Ainsi, ce n'est pas de l'apparence qu'il avait dans ces moments de souffrance dont nous devrions nous souvenir en premier lieu. Il était sans richesse ni gloire pour attirer à lui. Ce qui revêt le plus d'importance pour nous, c'est ce qu'il était à l'intérieur de ce tabernacle physique affligé. Ce qu'il était a rendu possible ce qu'il a fait. C'était la magnificence de ce qu'il était qui attire notre attention. Ce que nous devons voir quand nous voyons l'homme, c'est l'apogée de son triomphe sur les forces du mal, bien qu'à cet instant il ne semblait pas du tout s'agir d'une victoire. C'est son calme au milieu de la plus violente des tempêtes qu'un être humain puisse subir. Chaque stratagème diabolique que l'ennemi avait jamais inventé s'était déchaîné ou allait se déchaîner contre lui. Il les a tous vaincus. Il s'est tenu devant Pilate avec un calme et un sang-froid parfait. Songez-y, sa victoire sur les éléments physiques du monde et sur la condition humaine a été démontrée sans aucun doute possible. Il pouvait commander les esprits malins. Il a guéri le malade, a donné la vue à l'aveugle et loué au sourd. Il a ramené le mort à la vie et a rendu les enfants décédés à leurs parents. Il connaissait les pensées et les sentiments de tous. Il a pardonné les péchés et a purifié les lépreux. Il a porté le fardeau des péchés, de la douleur, des maladies et des faiblesses de l'humanité tout entière, la nuit qui a précédé cette scène. Étrangement, il a même souffert pour les péchés de ceux qui, à cet instant même, le maltraitaient. En effet, voici l'homme. Il était le Fils du Dieu vivant. Il était le modèle de vie, celui envoyé pour montrer la voie et être la voie. Il était la vérité et la vie pour nous tous. Par ces trois mots, voici l'homme, Pilate, sans le savoir et sans le vouloir, a exprimé la formule simple pour atteindre les buts les plus élevés de la vie. Quand il a demandé aux Juifs de le regarder, Pilate a retiré leur regard, et le nôtre, vers celui, le seul, qui peut rendre notre vie abondante et qui nous a donné la vie. D'où le commandement de veiller à regarder vers Dieu et à vivre. Ce dont nous devons nous souvenir lorsque nous le regardons, c'est que grâce à ce qu'il est et à tout ce qu'il a fait, nous pouvons, nous aussi, triompher. Nous pouvons vaincre. Nous pouvons vivre abondamment au milieu des épreuves. Si nous choisissons de le regarder, de l'accepter et de mettre en pratique son évangile salvateur, il nous sauvera. Il nous secourra des effets de notre propre nature déchue et capricieuse et nous sauvera du péché, de la médiocrité spirituelle et de l'échec éternel final. Il nous purgera, nous raffinera, nous embellira et en définitive nous rendra même parfaits. Il nous donnera la joie et la paix. Il est la clé d'une vie abondante. Je vais vous raconter deux exemples concernant ce que nous pouvons faire pour nous tourner vers le Sauveur, le regarder et parvenir à une vie abondante. Tout d'abord, le sermon des jeunes pousses. Cathy et moi vivons sur une colline sur le flanc est de Salt Lake City, dans une maison que ses parents ont construite. Une espèce d'arbre pousse là, au pied des collines qui entourent Salt Lake City. Ce sont des chênes arbustes. Contrairement aux grands chênes majestueux connus dans de nombreuses régions du monde, ces chênes ne grandissent pas beaucoup, mais sont robustes et magnifiques. Il y en a plein dans notre voisinage. Il y a quelques années, nous avons placé un large pot de fleurs dans l'allée qui mène à notre porte d'entrée, sous les branches d'un de ces chênes. Nous y avons planté des fleurs aux couleurs vives et avons pu admirer leur beauté pendant les mois d'été. Quand l'automne est arrivé, les glands du chêne ont commencé à tomber et quelques-uns sont tombés dans le pot de fleurs. Un jour d'automne, où je jardinais, j'ai remarqué que quelques jeunes pousses, issues des glands tombés dans le pot, avaient germé. La saison de floraison touchait à sa fin, mais nous ne voulions rien d'autre que des fleurs dans le pot. J'ai donc commencé à retirer les jeunes pousses. Quand j'ai tiré, les jeunes pousses sont sorties très vite de terre. À ma grande surprise, les racines étaient déjà bien plus longues que les pousses elles-mêmes. Les racines étaient 3 à 4 fois plus longues que la partie visible en surface. La nature avait conçu la jeune pousse du chêne arbuste pour qu'elle dépense presque immédiatement toute son énergie pour s'enraciner. Les raisons semblent évidentes. Tandis que le printemps et l'automne sont agréables à Salt Lake City, l'été est chaud et sec et l'hiver est froid, avec beaucoup de vent et de neige. Les racines profondes aident les jeunes pousses à grandir en s'étendant rapidement sous la surface. Cela permet aux racines les plus exposées de puiser l'humidité et les nutriments dans le sol. Les racines profondes ancrent fermement les arbres qui se dressent très tôt face au vent. Elles aident ces arbres robustes à supporter les tempêtes hivernales et la chaleur des jours d'été. Les racines profondes facilitent la survie du chêne. Quand les jeunes pousses atteignent enfin leur taille adulte, leurs racines continuent à les nourrir, à les protéger et à les soutenir. Le chêne arbuste nous enseigne une leçon. Nous devons nous réjouir de la beauté du printemps et de l'automne, mais toujours nous souvenir que des temps plus difficiles sont à venir. Les chaudes journées d'été suivent inévitablement le printemps et les froides journées d'hiver succèdent à l'automne. C'est le cycle de la vie. C'est aussi le cycle de notre vie. Tout en appréciant les périodes de quiétude, de confort et de bonheur, nous devons être préparés aux épreuves de la vie qui nous attendent. Où que nous vivions, nous avons tous des expériences semblables à un été aride ou un hiver glacial. Nous passons par des moments de joie et de difficultés, de succès et d'échecs, de santé et de maladie, des périodes de bonheur et des moments de chagrin. La vie n'est pas statique. Elle n'est pas sans embûches. Nous passons tous par des moments qui nous attristent et d'autres qui nous réjouissent. La vie est également la même pour nous tous dans d'autres aspects. Nous sommes tous entourés des cultures et des traditions de notre collectivité, de notre pays d'origine. Certaines de ces influences sont bonnes et d'autres ne le sont pas. Certaines nous élèveront et d'autres nous rabaisseront et nous dégraderont. Nos foyers peuvent être bénis par la lumière de l'Évangile ou brisés par le non-respect des commandements de Dieu. L'exemple d'amis peut être formidable ou terrible. Nul ne sait où la vie nous conduira. Nous ne pouvons pas pleinement prédire notre santé future ni notre avenir financier. Nous ne pouvons pas prédire l'influence de la guerre ou de la météo. La vie est faite de cycles et de saisons. Des situations variables que nous ne maîtrisons pas nous apportent leur lot de difficultés. Mais, contrairement aux arbres, nous pouvons choisir de volontairement développer les racines spirituelles de notre vie. Nous décidons où nous voulons nous enraciner et à quelle profondeur. Nos décisions quotidiennes font d'infimes différences dans les racines de notre foi, dont le résultat est fondamental. Comme nous ne savons pas quand les difficultés surviendront, ni combien de temps durera notre hiver ou notre été personnel, nous devons planter nos racines aussi profondément que possible dans la seule source de nutriments pour notre âme, le Seigneur, Jésus-Christ. Il veut que nous ayons une vie abondante. Il nous invite à venir à lui. Il a dit, « Apprends de moi et écoute mes paroles. Marche dans l'humilité de mon esprit et tu auras la paix en moi. » Nous fortifions notre âme pour surmonter les tempêtes de la vie en apprenant de lui. Nous apprenons par l'étude et par la prière. Nous apprenons en observant des exemples justes. Nous apprenons lorsque nous servons les autres pour le servir. Nous apprenons en cherchant à l'imiter du mieux possible. Écouter signifie prendre en compte et prêter l'oreille, pas simplement entendre. Nous l'écoutons dans notre étude personnelle des Écritures. Nous l'écoutons en réunion de Sainte-Seine et dans le Temple. Nous l'écoutons dans le murmure doux et léger. Nous l'écoutons dans la voix des prophètes et des apôtres actuels. Une écoute attentive nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous fortifions nos racines de manière progressive, étape par étape. Lorsque nous l'écoutons, nous suivons le chemin qu'il a parcouru. Il est le début et la fin du chemin qui conduit à une vie abondante. Il est tout le chemin et la lumière qui l'illumine. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce que nous pouvons et devons faire pour développer nos racines n'est pas un secret ni une surprise. Nous devons respecter les commandements de Dieu. Même si nous pouvons rapidement établir une liste de choses que nous devons faire, nous savons tous que les énumérer est bien plus facile que les faire. Notre capacité à faire sa volonté grandit lorsque nous faisons sa volonté. Cela devient plus facile parce que notre conviction et notre foi grandissent. Quand nous persévérons avec foi à mettre en pratique les fondements de l'Évangile dans notre vie, le Seigneur nous donne une plus grande force intérieure. Un culte digne et sincère joue un rôle important dans la longueur de nos racines spirituelles. Assister à la réunion de Sainte-Seine et prendre le pain et l'eau avec révérence, avec une attention réelle, font du jour du sabbat un jour différent d'un dimanche ordinaire. Nous ne pouvons pas réellement faire pénétrer nos racines sans nous souvenir toujours de lui. Quand nous nous préparons avant nos réunions, le sabbat devient alors une expérience plus enrichissante. Quand nous songeons à notre besoin de pardon et à la bénédiction de toujours avoir l'Esprit avec nous, nous commençons à voir l'Église comme un sanctuaire et la Sainte Cène comme un moment de sanctification. C'est pourquoi nous devons toujours apporter certaines choses avec nous quand nous allons à l'Église. Parmi ces choses, il y a avant tout un cœur brisé et un esprit contrit. Nous devrions y aller avec le désir ardent de rechercher et de ressentir les bénédictions de l'expiation. De même, nous devrions toujours laisser certaines choses chez nous. Le sport, le travail, les divertissements et les courses doivent être enfermés dans un placard à la maison, qui peut être ouvert tous les autres jours, sauf le jour du sabbat. Le culte véritable développe la véritable conversion. Cela nous aide à plonger les racines de notre foi au plus profond, là où nous trouvons un réservoir spirituel qui deviendra en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Paul a écrit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. » Les racines tirent aussi avantage de l'opposition. Le vent doit souffler, et le temps doit être parfois rigoureux, si nous voulons développer une véritable force. Un effort doit être fait pour s'accrocher, résister au vent et aux intempéries, si nous voulons être forts. Quand une tempête souffle, elle balaye facilement les arbres qui ne sont pas fermement enracinés dans le sol. De même, il doit y avoir des vagues de sécheresse pour que les racines aillent rechercher l'eau en profondeur. Inversement, trop d'eau affaiblira un arbre, et ses racines resteront près de la surface, ne plongeons pas assez profondément. Si nous ne faisons pas face à des tempêtes et des sécheresses personnelles, nos racines n'ont jamais la possibilité de se renforcer. Elles ne mûrissent pas si tout est facile. Étrangement, la période de tranquillité est un test en soi, et il est difficile. L'absence de problème peut nous ramollir si nous ne faisons pas attention. Nous pouvons oublier de veiller à nous-mêmes, à nos pensées, à nos paroles, à nos actes, et à observer les commandements de Dieu, et à continuer dans la foi, sans une épreuve qui nous mette à genoux et agisse sur notre cœur. D'un autre côté, nous n'avons pas besoin de rechercher les épreuves et les soucis. La vie trouve le moyen de nous apporter des épreuves, même quand nous sommes fidèles. À part lorsque nous faisons de mauvais choix, qui se terminent toujours en tragédie, nous ne choisissons généralement pas quand et comment les problèmes de la vie frappent à notre porte. Mais assurément, nous décidons chaque jour comment nous nous préparons à les affronter, d'où le rappel que nous fait Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Voici un autre rappel. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Nous ne devrions pas être surpris quand nous manquons de foi si nous marchons au bord du chemin, étroit et resserré. Ce que nous faisons ou ne faisons pas a son importance, car l'action, tout comme l'inaction, ont des conséquences. Quand nous ne prêtons pas attention aux petites actions de foi quotidiennes, répétitives mais importantes, nous affaiblissons nos racines. Avec le temps, nous nous éloignons doucement de Dieu. Ainsi, la façon dont nous parlons les uns aux autres, les livres et les articles que nous lisons, les émissions télévisées que nous regardons, les choses que nous ne lisons pas et que nous ne regarderons jamais, les plaisanteries que nous disons ou que nous choisissons de ne pas écouter et encore moins de répéter, toutes ces choses reflètent notre position sur le chemin étroit et resserré, bien au centre ou sur les bords. Nous ne pouvons pas prétendre nourrir nos racines si les choses que nous faisons et ne faisons pas n'ont pas pour but de faire de nous de meilleurs saints. Ce n'est qu'au centre du chemin étroit et resserré que nous sommes en sécurité. Il n'y a nulle part ailleurs de meilleur modèle de vie, de chemin plus sûr vers la paix et la progression que celui tracé par le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul nom donné sous les cieux qui a le pouvoir de rendre notre vie plus divine. Nous ne pouvons nous tourner vers personne d'autre qui possède le même pouvoir de sauver, de renouveler et de transformer que le Sauveur. Nous avons été avertis de ce qui arrive si nous nous tournons vers qui ou quoi que ce soit d'autre pour trouver notre objectif suprême. Les paroles de Jude saisissent le vide inévitable de la vie qui finit par envelopper ceux qui choisissent quelqu'un ou quelque chose d'autre que le Sauveur. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Notre âme devait être si profondément enracinée en Christ que nous serions capables de supporter toute difficulté, de triompher de toute affliction, de résister à toute attaque de notre foi et de devenir telle des chaînes, ferme inébranlable et constant, malgré la chaleur du soleil ou la force de la tempête. Ce type d'enracinement est à l'épreuve du temps et survit à tout ennemi, même le plus subtil, le plus invisible et le plus trompeur. Et l'amour nous apprend comment la promesse d'une force semblable à celle d'un roc dépend de notre volonté de construire notre vie sur le Rédempteur. Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Maintenant que nous avons vu les racines, intéressons-nous aux fleurs dans notre second exemple, la beauté des jardins Butchart. En 1904, Robert Butchart et sa femme Jenny ont emménagé dans la pointe sud de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada. Robert Butchart était fabricant de ciment et avait besoin de calcaire dans sa production. Il a ouvert une carrière de roche calcaire à ciel ouvert près de ce qui est aujourd'hui la ville de Victoria. Il produisait du calcaire, élément essentiel du ciment, à partir de roches calcaires. Près de la carrière, ils avaient fait construire une maison et un terrain de tennis et avaient planté des roses et des pois de senteur. Avec le temps, les dépôts calcaires de la carrière se sont épuisés. Bientôt, la carrière n'était plus exploitée. Il ne restait plus qu'un grand trou disgracieux dans le sol, rempli de morceaux de pierre cassés. Voyant ce qui est arrivé, Jenny Butchart décida de transformer ce trou rocheux en jardin. Elle fit venir par charrette des tonnes de terre arable dans la carrière et les fit déposer au fond de la carrière. Elle commença à y planter des fleurs, des buissons et des arbres, et avec le temps, créa les jardins les plus célèbres du monde, les célèbres Sunken Gardens. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Jenny a continué d'agrandir le jardin et à y ajouter de la variété. Le couple Butchart voyageait à travers le monde et elle en profitait pour collecter des variétés de buissons, d'arbres et de fleurs exotiques pour ses jardins en expansion. Entre 1906 et 1929, le couple Butchart créa un jardin japonais, un jardin italien, un jardin méditerranéen et un magnifique jardin de roses, en plus du Sunken Garden. Leur jardin couvre plus de 50 hectares et sont maintenant un site historique du Canada. Ils sont le fruit délicieux d'années de patience et d'efforts attentionnés. De même, ils sont le témoignage de ce qui peut être fait quand une personne a la vision de la beauté qui peut être créée à partir d'une horreur. Le site internet du jardin, d'où j'ai tiré ces renseignements, rapporte que les jardins accueillent près d'un million de visiteurs par an. Nous avons tous en nous une carrière de roche calcaire. Nous venons du monde prémortel, apportant pour sûr des nuées de gloire. Nous venons avec des forces et des capacités spirituelles que nous avons développées là-bas. Mais nous venons aussi avec certaines faiblesses. Nous n'étions pas parfaits et nous n'arrivons pas parfaits ici. Innocents, oui, mais pas parfaits. Réfléchissons un peu à nos carrières personnelles de roche calcaire. Nous naissons dans un monde déchu et en héritons la nature, car l'homme naturel est ennemi de Dieu et l'est depuis la chute d'Adam. Notre être intérieur, l'homme ou la femme spirituelle que nous sommes, possède des faiblesses et des défauts. Nous avons des traits personnels indésirables que nous n'avons pas complètement estompés et des imperfections que nous n'avons pas vaincues. Nous avons commis certaines fautes au cours de notre vie. Nous continuons à le faire aujourd'hui. Il y a parfois eu des péchés graves qui paralysent notre progression spirituelle. Nous avons sans doute été parfois méchants, impatients ou fainéants. Nous avons sans doute eu de mauvaises priorités ou n'avons pas saisi certaines occasions. Nous avons tous nos propres insuffisances et nos propres manquements. Nous possédons sans doute d'autres types de carrières de roche calcaire qui représentent de grandes difficultés. Certains présents ici ce soir ont été victimes de ces vices épouvantables, qui peuvent laisser des plaies émotionnelles béantes, qui guérissent lentement, et des souvenirs qui hantent. D'autres souffrent peut-être de toxicomanie, ou sont alcooliques, ou regardent la pornographie. D'autres souffrent de dépression, de maladie, ou d'autres maux. La vie abondante offerte par le Sauveur apporte un remède à toutes les carrières de roches calcaires de notre âme. Aussi rugueuse que soit la roche, et aussi horrible que soient les cratères de notre âme, aussi répugnant que soit notre intérieur, nous pouvons être guéris et embellis. La beauté parfaite de l'âme du Seigneur est notre modèle. N'est-ce pas merveilleux que le Fils de l'homme, dont l'âme était un jardin de vertu, ait souffert dans un jardin, afin que nous puissions, à notre tour, planter les graines de la vertu en notre âme. Quelle que soit la souffrance que nous avons éprouvée, ou la profondeur du gouffre dans lequel nous avons sombré, nous pouvons développer la beauté de notre âme. C'est le diadème au lieu de la cendre, des fleurs qui jaillissent d'une carrière de roche calcaire. C'est l'acquisition graduelle des qualités du Christ, par une âme criblée par les problèmes et les périls de la vie. Cela s'accomplit grâce à son amour pour nous et par sa grâce. Cela s'accomplit par le pouvoir de son expiation et à la condition d'un repentir sincère et constant. Étonnamment, nous pouvons être guéris. Nous pouvons devenir une œuvre d'art de grande valeur. Nous avons la promesse que nous pouvons devenir notre propre version personnelle des jardins Butchart. C'est un élément essentiel du plan du salut, une préparation pour retourner en présence de Dieu. Si tout cela semble miraculeux, c'est parce que ça l'est. Alma, le fils d'Alma, était un homme très méchant et idolâtre. Son père était le prophète et le grand prêtre qui dirigeait l'Église. Mais Alma et ses fils, les fils du roi Mosia, allaient ça et là, cherchant à détruire l'Église et à égarer le peuple du Seigneur. Tandis qu'ils voyageaient dans ce but, un ange leur apparut. L'expérience les changea à jamais. La conversion d'Alma fut miraculeuse, et il enseigna que toute l'humanité, oui, les hommes et les femmes, toutes les nations, tribus, langues et peuples, doivent naître de nouveau. Oui, naître de Dieu, changer de leur état charnel et déchu à un état de justice, étant rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles. Et ainsi, ils deviennent de nouvelles créatures. Et s'ils ne font pas cela, ils ne peuvent en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, par notre immersion, nous ensevelissons symboliquement l'ancien pécheur et sortons de l'eau en nouveauté de vie, devenant une nouvelle créature. Le roi Benjamin a enseigné, à cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles, car voici, aujourd'hui, il vous a engendré spirituellement. Car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. C'est pourquoi vous êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles. Les gens peuvent recevoir un témoignage rapidement et c'est souvent le cas. De plus, dans de nombreux cas, des personnes et des groupes ont entendu l'évangile et ont éprouvé un grand changement de cœur en un court espace de temps, de sorte qu'ils n'avaient plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Ce grand changement et la naissance spirituelle. Cependant, obtenir un témoignage et subir un grand changement sont les étapes d'un processus de croissance et de raffinement qui dure toute une vie. L'amélioration de notre être dans la substance de notre âme se produit graduellement. Jenny Butchart a travaillé sur son jardin pendant 25 ans afin de produire une beauté luxuriante là où auparavant il y avait le chaos et la laideur. Il faut bien plus qu'une vie pour raffiner l'homme ou la femme qui est en nous. Le Sauveur remplit graduellement les trous dans notre âme et guérit les blessures que nous nous infligeons nous-mêmes ou que les autres nous infligent. Le Seigneur nous donne ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Et bénis sont ceux qui écoutent ces préceptes et prêtent l'oreille à ses recommandations, car ils en prendront la sagesse, car à celui qui reçoit, il donnera davantage. Il ajoute à notre âme vertu sur vertu et nous donne grâce sur grâce dans nos efforts de purification pour acquérir les qualités du Christ. Il est important de ne pas nous complaire avec les quelques améliorations intérieures que nous avons déjà effectuées, ni de nous lasser de bien faire. Au lieu de cela, nous allons continuellement de l'avant. Pierre nous a encouragés à continuer d'aller de vertu en vertu, d'étape en étape, presque comme si on les empilait les unes sur les autres. Il a écrit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous la seront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec le temps, le processus de croissance et de raffinement s'accélère. Car l'intelligence s'attache à l'intelligence. La sagesse reçoit la sagesse. La vérité embrasse la vérité. La vertu aime la vertu. La lumière s'attache à la lumière. La miséricorde a compassion de la miséricorde et réclame ce qui lui appartient. La justice poursuit son chemin et réclame ce qui lui appartient. C'est pour cette raison que l'image de Jenny Butchart travaillant pendant 25 ans pour créer son jardin est si instructive. Vous pouvez la voir, elle et les personnes qui ont travaillé à ses côtés, planter un arbuste par-ci, un brin de terre par-là et un arbre au milieu. Il est facile de l'imaginer en train de planifier, d'organiser et de s'assurer que chaque fleur et chaque nouveau buisson est au bon endroit. Le processus de croissance dans les qualités du Christ est l'équivalent spirituel d'ajouter des arbres, des arbustes et des fleurs, un à un, dans un jardin, puis de les nourrir jusqu'à leur maturité. L'effet immédiat de l'enracinement d'une vertu particulière dans notre âme peut ne pas être surprenant. Mais si nous continuons de planter et de nourrir dans la foi, petit à petit, avec le temps, le jardin de notre âme grandit en beauté. Notre vie commence à devenir abondante dans tous les sens justes du terme. Je voudrais maintenant vous demander de réfléchir à cette question. Qu'allez-vous planter aujourd'hui pour embellir le jardin de votre âme? N'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire connaître vos réponses sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag LDSDevo. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Ésaïe a capturé en quelques mots l'essence de ce que signifie être enraciné dans le Seigneur Jésus-Christ et faire éclore en notre âme certaines des qualités du Sauveur. Il a écrit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le Sauveur, Jésus-Christ, est le modèle de chaque vertu. Il a été le seul homme parfait qui ait jamais vécu. Il a expié pour nos péchés. Grâce à son expiation, nous pouvons devenir des hommes et des femmes du Christ. Nous pouvons être purifiés, changés, guéris et raffinés. Notre âme peut devenir une œuvre d'art. Puissions-nous regarder l'homme plus complètement. Puissions-nous l'imiter plus respectueusement. Puissions-nous le suivre plus sincèrement. Puissions-nous plonger nos racines plus profondément dans le sol du salut, jusqu'à nous reposer sur lui, le rocher de notre rédemption. Puissions-nous jouir de plus en plus de la bénédiction d'une vie abondante qu'il nous offre et devenir comme un jardin arrosé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants de l'honneur que nous avons eu d'avoir été enseignés par Frère et Sœur Clayton. Nous sommes reconnaissants pour le témoignage qu'ils ont de toi et pour leur foi extraordinaire. Père Céleste, nous te demandons d'être avec chacun de nous, tandis que nous qui sommes tes enfants, cherchons à découvrir tout notre potentiel divin. Bénis-nous tandis que nous cherchons à fortifier et mettre en pratique notre foi en toi, notre foi en l'avenir et notre foi en ta volonté et ton plan pour chacun de nous. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit qui était avec nous pendant cette réunion ce soir. Aide-nous à nous souvenir du discours de Frère Clayton tandis que nous cherchons à avoir une vie abondante. Nous sommes très reconnaissants des nombreuses bénédictions de l'Évangile dans notre vie. Nous t'exprimons notre gratitude et nous te prions pour que tu nous donnes de la force et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.